Bonjour chers amis, que Dieu vous garde, vous bénisse. Françoise, tu viens d'essayer de m'appeler, mais il faudrait essayer après 19h, si tu veux bien. Voilà. Le sujet est compliqué aujourd'hui. Un peu compliqué, mais bon, il faut bien le traiter. Et c'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. Pour que les choses compliquées parfois deviennent plus simples, quand c'est possible. Vous savez que nous sommes dans une période qui est difficile. Les peuples élisent des présidents un peu partout. Parfois, certains présidents cherchent à rester, absolument, et changent les lois pour rester après, sur place. En démocratie, jusqu'à aujourd'hui, dans quelques pays démocrates, personne n'a encore osé faire cela pour rester au pouvoir. C'était arrivé au Portugal, en Espagne, etc., au Chili, en Argentine. Mais bon, quelques rares pays ont quand même des règles strictes et un président a été élu deux fois maximum. Mais nous, si nous, peuple, nous élisons des présidents, nous, chrétiens, au contraire, c'est Dieu qui nous a élus. C'est toute la proportion renversée. Le Seigneur nous a élus. Nous sommes élus par le roi, et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, par notre Père du ciel, et nous sommes son peuple, élus. Celui qui a accepté Jésus dans sa vie est choisi comme roi. Et il est choisi, il fait partie de ce qu'on appelle une nation sainte, un peuple choisi, des prêtres royaux. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Donc c'est tout le contraire. Alors, ne soyez pas perturbés, chers amis, chrétiens, ou non-chrétiens, ne soyez pas perturbés. Quand vous voyez ce monde qui se cherche toujours des rois, des prophètes, des présidents, etc. Parce que nous avons déjà tout reçu pour celui qui a accepté Jésus dans sa vie, qui sait que Jésus est mort sur la croix pour lui, qu'il a accepté Jésus comme sauveur, il a reçu ce cadeau d'être choisi comme roi, comme prophète et comme enfant de Dieu. Donc, nous avons été choisis et nous avons été nommés rois, prêtres, prophètes par le roi, le grand roi des rois, le Seigneur, le grand président qui préside à toutes choses dans les cieux et sur la terre. C'est tout le contraire de ce qui se passe en politique. C'est Dieu le Père qui choisit et qui nomme ses rois. Et nous sommes enfants de Dieu, nous sommes entrés dans la royauté de Christ. Par son sang et par le don du Saint-Esprit. N'oubliez jamais cela, c'est capital. Capital. Il faut avoir une idée très claire et très nette de notre identité. Elle n'est pas celle du monde. J'expliquais hier dans au culte, à l'église, que il y a énormément de chrétiens qui ont dans leur théologie, dans leur courant, leurs habitudes, leurs accords inter-églises, ont mis de côté le royaume de Christ et le retour de Jésus. Il y a simplement le Christ, mort sur la croix, ressuscité, ensuite le temps de l'Église, ensuite l'avenue du jugement final et le jugement pour le ciel ou l'enfer. Mais pour beaucoup, beaucoup, il n'y a plus d'enlèvement d'Église. Bon, imaginons, chers amis, qu'il n'y a pas d'enlèvement d'église et que nous allons jusqu'au dernier round, à la grande bagarre, à Armageddon, et qu'avant nous souffrions. alors que nous sommes les bien-aimés de Dieu, alors que nous sommes des rois, que nous sommes des enfants de Dieu, et que Jésus a dit, « Je vous garderai, nul ne vous ravira de ma main. » Que Jésus nous a dit que, « Courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. » Alors, comment se peut-il que Dieu nous laisserait dans des situations abominables comme elles sont décrites dans Apocalypse, chapitre 6 à 18? Je ne pense pas qu'un Dieu qui nous aime à ce point-là, qui nous a choisis comme rois, prêtres et prophètes, nous laisse dans une situation pareille. Parce que Dieu est fidèle à lui-même, il est bon, il est saint, et il aime ses enfants. Ceux qui ont répondu à son appel sont ses enfants, et il les protège. Donc je pense que l'enlèvement de l'Église fait partie de la théologie même de Dieu, de son amour pour ses enfants. L'enlèvement des saints, la résurrection de ceux qui ont décédé, et qui, avec ceux qui sont sur terre au moment où Jésus vient, sont enlevés sur les nuées. Pendant 7 années, ils échappent aux méfaits abominables de Satan et de ses serviteurs humains. Eh bien, cet enlèvement de l'Église était indispensable pour comprendre l'amour de Dieu pour nous. Est-ce que Dieu a laissé tomber Noé au moment du déluge? Pas du tout. Est-ce que Dieu a laissé tomber les Égyptiens en Égypte? Non, il a ouvert la mer Rouge. Est-ce que Dieu a laissé tomber Jésus et il l'a laissé pourrir dans le tombeau? Non, il l'a ressuscité. Nous avons eu des démonstrations à travers tous les témoignages de la Bible, des apôtres, des prophètes, de Jésus-Christ, de la fidélité de Dieu. Il aime ses enfants, il aime ses élus. Alors, pourquoi tant de chrétiens, de théologiens, de grands mouvements chrétiens, au moins 95%, 95%, laissent tomber aussi nettement cette prophétie du retour de Jésus et de l'enlèvement de l'Église? Pourquoi? Nous irons voir dans la deuxième épître de Pierre après. Maintenant, il y a pire que ça. C'est que, imaginons que nous acceptions cette théologie où il n'y a pas l'enlèvement de l'Église, il n'y a pas la résurrection des saints, l'enlèvement de l'Église, il n'y a pas ce temps de préservation de 7 années des élus de Dieu. S'il n'y a pas ce temps de protection, ce temps d'enlèvement de l'Église, nous allons être les plus malheureux du monde. Nous allons être la cible de Satan et de tous ses serviteurs. Est-ce que c'est cela l'amour de Dieu pour nous? Pas du tout. L'amour de Dieu, c'est de nous préserver de Satan. Satan a toujours été arrêté par le nom de Jésus-Christ. Priez dans votre vie. Lorsque vous voyez que vous êtes tenté par Satan, ou qu'il y a des choses qui viennent de Satan par d'autres, priez au nom de Jésus, priez et jeûnez, et vous verrez que Jésus-Christ vous protégera, s'interposera. Dans mon ministère, j'ai manqué plusieurs fois de mourir, et c'est grâce à l'intervention de Christ. Je crois à son autorité contre Satan. Mais il y a dans ce monde d'aujourd'hui, depuis un siècle, depuis le 18e siècle, un cercle de gens qui s'appellent les Illuminati et qui ont pourri toutes les cours des rois, des présidents, des chefs d'État et qui les ont réunis et qui leur ont parlé des prophéties bibliques. Et la grande doctrine de ce jésuite autrichien qui a fondé les Illuminati, c'est de dire ceci, nous, les humains, nous allons réaliser les prophéties de Dieu sans Dieu. Nous allons devenir maîtres de l'histoire, maîtres des prophéties, et nous allons nous passer de Dieu. Nous allons lui jouer un sale tour. Et donc, les Illuminati cherchent, en prenant le pouvoir à travers le monde et en induisant les chefs d'État à des grandes décisions qui sont déjà prises, ils induisent l'idée que l'homme est maître de l'univers, que Dieu est impuissant, que Jésus-Christ ressuscité n'a plus rien à dire et qu'il n'a pas besoin de revenir puisque de toute façon il n'a plus rien à dire. L'impuissance de Christ, c'est ça le but. L'impuissance de la vérité, c'est ça le but chez les Illuminati. Et c'est la soumission de tous les peuples à la doctrine de Satan, à la direction de Satan, pour les préparer à la venue de l'Antichrist. Alors, nous allons prendre les choses une après l'autre pour pouvoir y voir plus clair. Je vais vous lire ceci. Vous savez, quand j'ai fait l'Institut biblique, j'ai dû faire une confession de foi. Bénédicte a dû faire une confession de foi, Véronique aussi, Noémie aussi. C'est-à-dire qu'on précise exactement les points de notre foi de telle manière qu'on ne soit pas dans la confusion et qu'on puisse transmettre une idée claire, une idée biblique venue de Dieu à tous ceux que nous rencontrerons. Et donc voici. Je vous parle aujourd'hui des choses dernières. L'enlèvement de l'Église. Je crois que l'Église sera enlevée par Jésus-Christ dans les airs, dans les nuées, comme Jésus l'a dit. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, donc ceux qui ne sont pas décédés au moment où Jésus est là, qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'était une parole de l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17, une parole venue de Jésus-Christ lui-même. Il y a un autre texte, une autre parole. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 50 à 54. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 50 à 54. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, donc ce qui est humain, ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La corruption, c'est ce qui pourrit, qui est mangé par les vers, qui termine en poussière. N'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, donc une réalité divine. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Donc, les vers de terre ne pourront rien faire. Les mouches non plus, etc. Les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Osée chapitre 13, 8 siècles avant Jésus. La mort a été engloutie dans la victoire. C'est donc un fondement de la foi chrétienne, de savoir que Jésus préserve les siens de l'œuvre de Satan et du péché, des conséquences du péché. Quand l'Église est enlevée, passons-nous devant un tribunal? Sommes-nous jugés? Je crois que nous croyants, nous comparaîtrons bien sûr devant Christ, puisqu'il vient. Non pour nos péchés pardonnés, parce qu'ils sont pardonnés par le sang de Jésus à la croix, que nous avons accepté comme instrument de grâce suffisant à notre salut, mais nous paraîtrons au tribunal de Christ pour rendre compte de nos œuvres, de nos actions, de nos pensées, de nos démissions, de nos omissions, afin qu'elles soient jugées, non pas pour aller en enfer, qu'elles soient jugées et que nous recevions des couronnes. Si nous en méritons, nous recevrons des approbations et des des approbations à propos de tel et tel comportement, tel et tel fait, telle pensée, telle omission ou telle démission. Chers amis, c'est clair. Dieu est vérité et justice. Donc, il nous met devant une réalité, non pas pour nous accabler, nous détruire, nous séparer de nous, mais simplement, Jésus est la vérité. Il aime la vérité. Il ne peut pas passer la pommade, n'est-ce pas? Surtout, il ne peut pas mettre du plâtre sur un mur pourri. Il faut que quand on rentre dans la présence du Père un jour, il n'y a aucune souillure sur nous. Aucun péché ne rentre avec nous. Le pécheur peut rentrer, sauvé par grâce, mais pas le péché, en présence du Père. Donc nous passons au tribunal de Christ, c'est évident, mais pourquoi? Regardons bien ce qui est dit. Romains 14, verset 10. Toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ce n'est pas à nous à juger, ce n'est pas à nous à voir les maladresses ou les péchés parfois volontaires de certains chrétiens, ou les péchés faits par ignorance d'autres frères. Nous ne sommes pas là pour accuser les frères et les sœurs. Non, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, donc Dieu le Père, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc nous savons bien que ce tribunal n'est pas pour nous jeter en enfer, c'est simplement pour évaluer notre fidèle attachement à Dieu et gratifier les services, non pas les services qui nous donnent le salut, mais les services qui plaisent à Dieu, qui nous avait demandé de remplir dans notre vie. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin qu'il soit rendu à chacune, d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal, dans son corps, c'est-à-dire de son vivant sur terre. Chacun de nous rendra compte de tout ce qu'il a fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Deuxième aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Voilà donc le tribunal de Christ est évidemment une réalité, tout comme l'enlèvement, tout comme la résurrection de ceux qui sont morts dans la foi, qui ressuscitent et qui sont enlevés avec ceux qui sont sur terre à ce moment-là, mais nous passons devant une évaluation digne de ce nom, parce que Dieu sait tout, voit tout, dans l'amour et la miséricorde, puisque nous sommes ses enfants. Alors, pourquoi parler de la grande tribulation de cette année qui ne sont pas marrantes pour l'humanité? Ah, la grande tribulation, d'après la Bible, existe. Pour beaucoup de théologiens, beaucoup d'églises, elle n'existe plus. On l'a mis au bac. La grande tribulation aura lieu et ce sera le temps de déchaînement du diable sur la terre et de s'en laisser, Dieu le laissera agir. Et le grand représentant de Satan sera sur terre, c'est l'Antichrist. Christ arrivera, bien sûr, un jour, après cette année de malheur sur la terre, pour faire cesser ce règne de la terreur de Satan et de tous ses serviteurs. Mais la grande tribulation a été annoncée. Pour ceux qui font partie du peuple de Dieu, la parole de Dieu dit qu'il n'y participe pas. Nous venons de lire avant, nous l'avons lu tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17. Donc, lisons maintenant la deuxième aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 10. L'avènement de l'impie, donc l'antichrist, l'ennemi redoutable de la vérité, se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, Et avec toutes les séductions de l'injustice, donc du manque de sainteté. Hein, justice et sainteté, injustice c'est le contraire de la sainteté. Avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, ceux qui sont séparés de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. On peut le comprendre d'une manière un peu douteuse. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, donc Dieu ne leur a pas donné. Ça, c'est la manière la plus stupide de le comprendre. C'est pas ça qu'il faut dire. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, c'est-à-dire au moment où Dieu leur donnait la possibilité d'aimer la vérité, ils n'ont pas accepté en eux. Il y a toujours un cap dans la vie où la personne a des grâces, a des moyens pour accepter la vérité. C'est à ce moment-là qu'elle a le choix de réellement de sa vie éternelle ou de sa damnation. Parce que il y a des grâces pour pouvoir accepter la vérité et l'aimer. Mais Dieu appelle quelqu'un, il lui laisse le temps, il est patient, il lui laisse le temps, il lui donne des grâces. Va-t-il m'aimer? Va-t-il aimer ce que je lui fais comprendre? Ou va-t-il le refuser? Et clairement, il y a des hommes et des femmes qui refusent. Comme il y a eu des anges qui ont refusé dans le ciel, qu'on appelle aujourd'hui les démons. Prenons un autre texte, 2e aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée. C'est de ça qu'on va parler après. Et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Donc le temple de Dieu à Jérusalem, à côté de la mosquée ou à sa place, sera reconstruit quasiment à l'échelle est configuré comme celui du temple de Salomon, et les juifs orthodoxes seront très contents, bien sûr, très flattés, ils vont refaire des sacrifices, et puis à un moment donné, c'est un grand imposteur qui les a flattés, qui les a séduits, va demander, exiger de se faire adorer. Et pour la plupart, ils vont refuser, ils vont se faire tous massacrer, parce que Dieu va envoyer Élie et Moïse, tout ça expliqué dans l'Apocalypse, pour les éclairer sur Christ, le Sauveur, le nouveau Moïse qui leur était destiné, qu'ils avaient crucifié, eh bien, Dieu renvoie Élie et Moïse pour leur montrer, certifier l'authentique mission et nature divine de Christ. Alors, beaucoup vont se convertir au prix de leur vie, évidemment, parce que l'Antichrist ne fera pas de cadeaux. C'est un adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qui veut être adoré à la place de Dieu. 2e aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4, que personne ne nous séduise d'aucune manière, il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée, que se révèle l'homme impie, le fils de perdition. L'adversaire. Adversaire de qui? De Christ. Adversaire des enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu étant enlevés, n'étant pas là, qui il sera adversaire de qui? Ben, de ceux qui, à un moment donné, vont se rendre compte que Satan est là et ils n'en veulent pas. Il va devenir un adversaire déclaré et ils vont le payer du prix de leur vie, d'ailleurs. Apocalypse, chapitre 13, versets 4 et 5. Ils se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils se prosternèrent devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut la combattre ?» Il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, nous avons affaire ici à la moitié de la tribulation. Les 3 ans et demi, il y a 3 ans et demi de fausse paix, d'illusion, de séduction, et puis 3 ans et demi de carnage, et c'est cela. Il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, durant la tribulation, Satan ne peut faire que ce que Dieu lui permet. Il ne peut pas aller au-delà. Apocalypse 19, versets 15 à 16. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. De qui parle-t-on? De Christ. Hein? L'épée tranchante, c'est sa parole. Pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau, sur sa cuisse, un nom écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. Donc, durant cette période de tribulation, et à la fin, le Christ en personne intervient et livre bataille à Satan. Et sa parole suffit pour anéantir Satan, car il est la parole créatrice, mais il est aussi la parole qui peut vaincre Satan. La seconde venue de Jésus, c'est cela qui intéresse un vrai chrétien aujourd'hui dans ce monde qui va mal. Je crois que Jésus-Christ reviendra pour établir son règne et que tout œil le verra. En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Ça c'est Luc, chapitre 9, verset 26. Apocalypse 1, 7. Voici, il vient avec les nuées, tout homme le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen. Les tribus de la terre se lamenteront, celles qui sont dans les tribulations, évidemment. Parce que ceux qui sont sauvés ne sont pas là. Apocalypse 19, versets 15 et 16. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer, le sceptre étant le symbole de leur royauté. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, 20. La bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants dans les temps de feu où brûle le soufre. Donc la bête est prise et jetée en enfer, ainsi que le faux prophète. Apocalypse 20, versets 1 à 3. « Je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme, Tartarasco, c'est-à-dire c'est comme une prison, un immense puits fermé par une grille que Satan ne peut pas ouvrir. Pourtant, Satan a de grandes puissances, mais devant cette autorité de Christ, il n'en a pas. Je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, c'est Tartarasco, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pendant un peu de temps, 42 jours. Hein. Alors, nous voyons ici que le Seigneur Jésus a une autorité importante et que Satan ne peut pas faire ce qu'il veut. Si pendant cette année, il va faire quelque chose, c'est parce que simplement Christ a laissé faire. Mais il a laissé faire vis-à-vis des humains qui l'ont refusé. Ceux qui ont accepté Jésus ne sont pas là. C'est la même chose que Noé. Quand Noé et sa famille ont accepté Dieu et lui ont obéi, ils étaient dans l'arche et ils ont passé au-delà. Ils sont restés vivants malgré le déluge. Il en est ainsi de même pour son Église lorsque les tribulations arriveront sur la terre. Êtes-vous, enfant de Dieu, êtes-vous membre de l'Église, du corps de Christ? Avez-vous donné votre vie à Christ? Obéissez-vous à Christ? Aimez-vous le Seigneur Jésus, sa volonté, sa parole? La mettez-vous en pratique? Alors oui, vous serez enlevés, vous serez mis à part, vous ne connaîtrez pas les horreurs qui vont arriver sur terre. Il y a bien sûr un millénium, le règne de 1000 ans, mais ça je ne vais pas en parler aujourd'hui. C'est quand Jésus a brisé Satan, a brisé les rois, les militaires, les puissances terrestres, c'est Ézéchiel 39, il a tout brisé, oui, il établit sa royauté. Alors, l'Église, les saints, qui étaient mis à part pendant 7 ans sur les nuées, sont déposés, sont mis sur terre, avec tous ceux qui s'étaient convertis pendant les tribulations et qui ressuscitent. Il est clair que dans cette doctrine, nous voyons que le Christ a l'autorité et le contrôle de la situation. Et nous voyons que le Christ a l'amour de ses brebis, de ses enfants. Et nous voyons que Christ est fidèle, que Christ a tout prévu pour ses enfants, pour ses brebis. Si nous ne croyons pas qu'il y a le retour de Christ, qu'il y a l'enlèvement de l'Église, que l'Église, les saints sont préservés pendant les 7 années, si nous pensons qu'il n'y a qu'une longue histoire jusqu'au jugement final, où est l'amour et l'amitié de Christ pour ses brebis? Où est la puissance de Christ contre Satan pour préserver ses enfants? Supprimer l'idée de l'enlèvement d'Église et de la préservation des saints, c'est supprimer la puissance et l'autorité de Christ. C'est mettre en question sa seigneurie. Rappelez-vous, dans Matthieu 28, 18 à 20, que Jésus a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. J'ai reçu tout pouvoir dans ceux sur la terre. » Si il n'y a pas l'enlèvement de l'Église, s'il n'y a pas préservation des saints et des saintes, s'il n'y a pas résurrection des saints, pour être mis à part, et pour ne pas être sous la férule de Satan et de ses démons, si nous n'avons pas l'accomplissement de cette promesse, alors Christ est impuissant devant Satan. Christ n'a pas d'autorité, donc il a menti. Donc il n'a pas reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il est clair que nier l'enlèvement de l'Église, nier cette autorité de Christ dans l'histoire qui est très proche, qui va arriver, nier l'autorité de Christ et la seigneurie de Christ, c'est nier la nature de Christ. C'est nier la nature du ressuscité. J'insiste là-dessus parce que aujourd'hui, trop de chrétiens sont dans le flou. Je dirais dans la confiture théologique, la confiture spirituelle, ils ne savent plus où ils en sont. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils doivent penser. Et boulot, métro, dodo, etc. Les enfants, les factures, les peurs, les angoisses, le Covid, le masque, les élections des présidents. Tout le reste fait que c'est dans cette grande tambouille, les choses ne sont plus claires. Et il faut que les choses soient claires, chers amis. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Je veux être votre serviteur pour que vous ayez le bonheur de voir clair. Il n'y a pas que moi d'ailleurs. J'espère que beaucoup d'autres prédicateurs et d'autres serviteurs de Dieu aiment le peuple de Dieu et l'encouragent à voir clair. Au deuxième épître de Pierre. Si nous regardons bien, au deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 3, verset 2. Je vais commencer 3, verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre lettre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, donc c'est pas la tambouille. C'est pas le cafouillage, la grande farfouille. C'est ça que Pierre veut. Et de même, je veux que ce soit clair pour vous, mes amis. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Aha. Du commandement du Seigneur et sauveur, enseigné par vos apôtres. Voilà. Voilà ce que Pierre dit. Saine intelligence, référez-vous à tout ce qu'a dit Jésus-Christ, ce qu'ont dit les apôtres, ce qu'ont dit les prophètes. Il faut avoir une vie fondée dans la parole de Dieu et bien la comprendre pour ne pas, entre guillemets, péter les plombs. Ou en tout cas, écoutez n'importe quel prédicateur qui passe à droite et gauche. Alors, au verset 3, deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 3, sachez avant tout que dans les derniers jours, eschaton, ça veut dire, c'est de la période, à partir du moment où Jésus est mort et ressuscité, monté au ciel, jusqu'à son retour. Dernier jour, ça veut dire ça, eschaton. Ce n'est pas les derniers jours des témoins de Jéhovah ou des adventistes. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Depuis qu'Abraham est mort, depuis que David est mort, depuis que Adam est mort, que Marie est morte, que les apôtres sont morts, il n'y a rien changé. Vous voyez bien que Dieu, il ne fait rien. C'est ça que ça veut dire. Mais ce genre de prédicateurs, c'est ceux qui disent qu'il n'y a pas le retour de Jésus, qu'il n'y a pas l'enlèvement de l'Église. C'est ceux qui ont établi une théologie amillénariste, sans millénium, sans règne de Christ. Une théologie sans tribulation, une théologie sans enlèvement de l'Église. C'est ceux-là qui sont visés ici par Pierre. Verset 5. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux d'autres, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Des cieux, c'est-à-dire les anges, les archanges, le trône de gloire de Dieu, le trône de gloire, le temple divin, qui viendront sur terre. Jérusalem céleste revient sur terre. Apocalypse 21 et 22. Alors. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau, formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Ils veulent ignorer quoi? Ils veulent ignorer que la parole de Dieu a le pouvoir de créer la vie et le pouvoir de détruire la vie, à l'époque de Noé. Verset 7. Par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, donc Armageddon, l'échec total de toutes les puissances mondiales, dans Ézéchiel 39. On n'en est pas loin, chers amis. On n'en est pas loin. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc, à la fin des tribulations, crac, boum. Il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc, en Dieu, il n'y a pas de jour. Dieu est éternel. Nous, c'est nous qui avons des jours. Je suis né tel jour à telle heure, je meurs tel jour à telle heure. Je vis autant de jours sur la planète Terre, et j'ai un calendrier, j'ai une montre, et je dois gérer ce temps qui m'est donné. Mais Dieu n'a pas ce temps. Dieu est éternel. Dieu n'est pas limité par un calendrier et par des jours. Ça ne correspond pas à lui. L'espace et les jours, le temps, sont des indications de nos limites. Dieu qui est éternel et infini n'a pas ses limites de temps et d'espace. C'est ça que Pierre insiste là-dessus. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, donc beaucoup croyaient déjà vers les années 60 que Dieu ne va pas renvoyer Jésus, que l'Église ne sera pas enlevée et qu'on va rester dans le cambouis jusqu'à la fin, jusqu'au jugement final. Bon, ça c'est, ils ne veulent pas croire. Alors, nous reviendrons à cela après. Mais prenons ce que dit Pierre dans son épître, auparavant. Au chapitre 2, nous sommes dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Donc les faux prophètes dans l'Ancien Testament, mais des faux docteurs, des faux enseignants, des gens qui ne donnent pas le vrai sens de la parole de Jésus-Christ, et qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses qui, reniant le maître qui les a rachetés, reniant Jésus-Christ et le salut à la croix, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc, ils sont condamnés déjà, ceux-là. Ils introduisent ces doctrines sournoisement. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Regardons. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, azelgia, c'est-à-dire dérèglement, pas au niveau seulement sexuel, mais c'est l'argent, c'est le sexe, c'est la politique, c'est le pouvoir, c'est la cupidité, c'est la haine, etc. Donc, il y a des gens qui se disent chrétiens et qui vont entraîner des autres qui se disent chrétiens dans des mouvements de haine, de passion, au niveau sexuel, au niveau de passion politique, etc. Est-ce que l'histoire ne nous a pas montré cela ? Évidemment. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Mais regardez bien tous ces gens qui introduisent des doctrines comme ça, regardez bien les grandes églises et leurs richesses. Leur grande richesse exprime cette soif de cupidité. Et les cupides n'héritent pas le royaume des cieux. Épître aux Éphésiens, Paul l'a bien dit. Alors, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Donc, ils vont vous tromper en disant, vous savez, non, Jésus ne reviendra pas, non, il n'y a pas de règne. Bien, figurez-vous que saint Augustin va annoncer le retour de Jésus pour les années 500, 600, c'est pas arrivé. Et ensuite, les théologiens d'Occident ont dit, il va revenir pour l'an 1000, c'est une date fatidique. Et ils sont trompés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y a pas de règne de Christ qui viendra sur terre. C'est l'église de Rome qui est le règne de Christ sur terre. À partir de là, avec cette idée, on a créé de grandes abbayes, on a occupé de grands territoires, on a eu des armées dans l'église catholique. Et, on a perçu de l'argent. Et on vendait le paradis. On vendait des indulgences. Parce que c'était l'église qui était le royaume de Dieu, qui détenait tous les pouvoirs. Vous voyez à quel point, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, de paroles qui ne sont pas selon l'enseignement de Jésus. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. La ruine ne sommeille point, c'est-à-dire la ruine est réelle. Elle tombera dessus. Continuons à lire, chers amis. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 4. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, donc les démons qui se sont révoltés dans le ciel et qui ont été jetés en bas, n'est-ce pas, qui sont sortis de la gloire de Dieu, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, il faut savoir que tous les démons qui se sont révoltés ne sont pas à l'œuvre sur terre. Il faut savoir qu'il y en a au moins les deux tiers qui sont privés de liberté, qui sont comme en prison. Et ils ne peuvent pas agir. Durant les tribulations, figurez-vous, ils sont relâchés pour collaborer avec l'Antichrist. Seulement dans les tribulations, ils sont relâchés. Avec les démons déjà qui sont agissants maintenant. Alors imaginez à quel point ça va barder dans les tribulations, mais tout cela avec la permission de Dieu. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, donc il a mis les deux tiers des anges révoltés, des démons, emprisonnés, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserves pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, donc le monde avant Noé, qui était perverti au niveau sexuel, au niveau politique, à tout niveau, Genèse chapitre 6, lisez-le, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la sainteté divine, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, donc de personnes qui vivent contre Dieu, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, et donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, le Seigneur s'est donc délivré, verset 9, de l'épreuve les hommes pieux. Nous voyons bien que la délivrance qui a été accordée à Lot, qui a été accordée à Noé, est le témoignage de la fidélité de Dieu, et que Dieu, dans sa fidélité, sauvera son peuple chrétien sur terre et ne le laissera pas dans la tribulation sous l'Antichrist. Donc, chers amis, quand vous ouvrez le texte, le livre de Apocalypse, les chapitres 6 à 18, si vraiment vous êtes enfant de Dieu, né de nouveau, vous vivez dans la volonté de Dieu, ne vous concerne pas. À la fin du chapitre 5, regardez bien, le nom de Dieu, c'est toujours au début de l'Apocalypse, celui qui est, qui était et qui vient. Et puis, à partir du chapitre 6, c'est celui qui est, qui était. Qui était, c'est un verbe aoriste, a été, est et sera. Mais qui vient n'y est plus. Et vous arrivez au verset, au chapitre 19, et vous voyez que le Christ arrive. Donc, il y a une période où le Christ ne vient pas pour ceux qui sont dans les tribulations, il les laisse avec leur bon copain, le diable, puisqu'ils l'ont tellement aimé, ils ont tellement aimé leur péché, eh bien, il faut qu'ils en profitent. Mais le Christ est venu jusqu'à la fin du chapitre 5 et un chapitre 19. Il est venu pour ses élus. Donc, Dieu s'est délivré le juste, Lot, donc au verset 7, au verset 9, le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair, donc après les choses humaines, dans un désir d'impureté qui méprise l'autorité. Quelle autorité? Du Saint-Esprit, de l'autorité de l'Évangile. Comment sont-ils ceux-là qui sont injustes? Qui courent dans les désirs d'impureté, qui méprisent l'autorité. Ils sont audacieux et arrogants. C'est dans le verset 10. Audacieux et arrogants. Et ils ne craignent pas d'injurier les gloires, c'est-à-dire d'injurier Dieu, Jésus-Christ, d'injurier les prophètes, la Bible, d'injurier même les saints, si vous voulez, Dieu, les anges, les archanges. Ils maudissent tout ce qui vient de Dieu. Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est pas le cas? On en arrive là. Quand j'ai entendu un jour un président de l'État français dire « Nous, en République, nous avons le droit de blasphémer. » C'est pas injurier les gloires, ça? Et dans un autre discours, la bête est déjà là. Ah oui, la bête injurie. Le Créateur. Alors, audacieux et arrogant, c'est la caractéristique des gens qui s'opposent à Dieu aujourd'hui et qui se préparent à rester dans les tribulations. Audacieux et arrogant, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, donc surtout les anges, les archanges, tout ce qui entoure Dieu. Hein, tout ce monde céleste qu'on voit dans Apocalypse chapitre 4 et 5, hein, et dans Ézéchiel chapitre 2, chapitre 8, chapitre 10, eh bien, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Nous voyons que les anges qui sont obéissants à Dieu, les anges qui sont aimants, et qui nous soutiennent, qui nous protègent, ne s'attaquent pas, n'injurient pas les hommes mauvais, n'injurient pas les opposants à Dieu. Ils ne rentrent pas dans une œuvre de malfaisance vis-à-vis des pécheurs, vis-à-vis des audacieux et des arrogants. Ils restent calmes, tempérés. Ils n'ont pas l'ordre de sanctionner. Quand le Fils de l'homme reviendra à la fin de la tribulation, oui, alors ils viendront pour moissonner. Oui, ils viendront en collaborant avec Christ pour châtier les impies et les méchants. Mais en attendant, ils n'injurient pas. Ils ne posent pas de jugement, ils laissent faire. Les anges sont pourtant puissants, chers amis. Rappelez-vous la discussion que Jésus a eue avec Pilate. Quand Pilate lui dit, mais tu sais que j'aurais le droit de te faire mourir, tu n'as aucun droit. Si ce n'est mon Père des cieux, il m'avait donné. Et puis, si je voulais, j'aurais pu demander à mon Père 12 légions d'anges. Ou 6 légions d'anges, je ne me rappelle plus. Mais ce qu'il y a, ils ne viennent pas. Ce n'est pas l'heure. Les légions d'anges ne viennent pas à ce moment-là. Jésus le sait, il n'en a pas besoin. Le temps est fixé. Il faut que les légions d'anges viennent et mettent bon ordre. Alors, en attendant, les audacieux et arrogants ne craignent pas d'injurier Dieu et tous ceux qui entourent Dieu, et tous les anges, des anges saints, pas les démons. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, qui sont nés pour être prises et détruites, donc ces êtres humains sont des brutes, d'où le mot brutalité. Rendez-vous compte, dans ce monde, que la brutalité est mise en exergue. Dans tous les films, dans tous les jeux pour enfants, dans tous les sports, la brutalité est une règle. Et ils s'abandonnent à leurs fonctions naturelles, qui sont nées pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, donc de Jésus-Christ, de Dieu, des prophètes, de la foi, des chrétiens, nés de nouveau, ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Donc, on n'a plus peur d'affronter Dieu, de nier Dieu, on n'a plus peur de faire n'importe quoi, à tout niveau, jour et nuit. On y va tout droit, c'est déjà en route depuis longtemps, depuis que M. Cohn-Bendit, en mai 70, a proclamé avec toutes les foules d'étudiants et tous les gauchistes, il interdit d'interdire. Ils ont les yeux pleins d'adultère, donc c'est-à-dire, ils n'ont pas envie d'être fidèles, ils n'ont pas envie de vivre dans le mariage, dans un amour fidèle toute leur vie. Leurs yeux, leur âme, leur corps sont dévorés par les passions. Le feu de l'amour. Il y avait des films là-dessus. Les housewives, n'est-ce pas? Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché, donc ils n'ont jamais assez. Ils amorcent les âmes mal affermies, donc les nouveaux, les nouvelles personnes qui ont accepté Jésus, qui ont découvert l'évangile, sont très fragiles. Ils les amorcent, comme on amorce un poisson. On tend une ligne, on met un petit verre de terre, un morceau de riz, un morceau de viande au bout de l'hameçon, puis le poisson vient s'y accrocher. Donc les nouveaux chrétiens, les gens qui sont récemment convertis, sont très en danger dans la situation d'aujourd'hui. Et c'est pour ça, chers amis, qu'il faut absolument prendre soin de tous les nouveaux convertis, de tous les nouveaux, de ceux qui viennent vers le Seigneur. C'est pas de la rigolade. Ils sont entourés de gens qui veulent les ruiner, les détourner. Ce sont des enfants de malédiction, verset 14. Donc ils maudissent, ils disent du mal tout le temps. Ma femme faisait un parterre aujourd'hui devant la maison. Dans notre maison, il y a plein de réfugiés, il y a du bonheur. Mais vraiment, il y a des tonnes de bonheur dans notre maison ici, avec tous les réfugiés, tous les enfants, l'école, etc. Les petits animaux que nous avons, le soleil, la prairie, etc. Les ruches, les abeilles, des poules. Enfin, voilà, on est bien, c'est une petite maison dans la prairie chez nous. Mais ce qu'il y a, elle travaillait devant la maison. Et là, il y a un trottoir. Elle me dit, mais comment que ça se fait que les deux petites filles là, qui sont passées à côté de moi, quand je leur dis bonjour, ne répondent pas. Et plusieurs dans le village sont comme ça, ne répondent pas. Pourquoi? Parce que leurs parents les ont dressés, les ont obligés à ne pas nous regarder, à ne pas nous saluer. Ils deviennent des enfants de malédiction, oui. Ils finiront par nous maudire. Ils finiront par ne pas nous aimer. Et ils finiront par, si jamais, imaginez que l'Antichrist soit là, à nous jeter dans les bras de l'Antichrist, enfin sous ses pieds. Mais heureusement pour nous, Jésus sera venu nous chercher. Et les enfants de malédiction risquent d'être l'Antichrist. C'est ça le malheur de tous ceux qui ont appris à maudire les chrétiens nés de nouveau. Tous ces jeunes qui ne se rendent pas compte à quel point les parents les ont poussés à maudire les enfants de Dieu, tous ces jeunes vont souffrir durant le temps de l'Antichrist. Parce que ce sont des enfants de malédiction. Verset 15, après avoir quitté le droit chemin, donc on parle ici de personnes qui ont découvert l'évangile, qui ont, hein, c'est comme à la fin du verset 14, ces âmes mal affermies, ce sont des personnes qui ont découvert l'évangile, mais ça y est, ils ont goûté à l'évangile, ils ont goûté à la parole de Dieu, ils sont tout heureux. La maison est bien propre, le démon est parti. Mais l'homme fort n'est pas installé, le Saint-Esprit n'est pas installé, la nouvelle naissance n'a pas eu lieu. Et qu'est-ce qui se passe? Le démon va chercher cet autre parce qu'il s'ennuie, il revient à 8. Et c'est la grande destruction spirituelle. Eh bien, c'est ça qui est mis ici, au verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor. Un, l'occultisme, la divination et tout le reste. Deux, la dilution sexuelle. Ça, c'est la voie de Balaam. Qui aima le salaire de l'iniquité. Voilà. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, donc une fontaine où il n'y a pas d'eau, ben, quand on a soif, on a encore plus soif après. On est déçu. Donc ce sont des gens qui vont vivre dans le malheur. Qui ne seront pas apaisés. Dont l'âme va dépérir, le corps va dépérir. Ces gens-là, la civilisation va dépérir. Ce sont là des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. Donc un tourbillon qui chasse des nuées, c'est un cyclone. C'est une tornade. Imaginez ce que ça veut dire. Ce sont des gens qui vont être comme des tornades. L'obscurité des ténèbres leur est réservée, donc les ténèbres de l'Antichrist, la période de tribulation. Alors, toutes ces personnes-là, tous ces audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, c'est au verset 10. Ces gens-là, qui courent après la chair, dans le verset 10, vous voyez ça, dans un désir d'impureté, de dérèglement, qui méprise l'autorité du Saint-Esprit, l'autorité de l'Évangile, de Dieu, de la sainteté, de la vérité, de l'honnêteté. Ces gens-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Verset 18, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Donc, il y a des nouveaux convertis qui ne sont pas affermis, qui ont manqué d'instruction, manqué de pasteur, manqué de bonnes églises de la parole de Dieu, de groupes de prière, de temps de prière et de consécration à Dieu. Ces gens qui viennent à peine d'échapper aux hommes retombent dans l'égarement. Alors, tous ces gens qui les influencent leur promettent la liberté. Eh oui! C'est quand même trop dur, hein, d'être chrétien. C'est quand même stupide. Regarde, tu ne fais plus tout ce que tu faisais avant, etc. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption car chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, donc il parle de personnes qui réellement ont entendu l'évangile. Rappelez-vous ce que M. Billy Graham a dit, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui l'écoutaient. Beaucoup se sont avancés, ont levé la main, ont été tout près de lui. D'autres prédicateurs ont fait la même chose. C'est une méthode sensationnelle, hein? On a l'impression que l'évangile est en train de gagner le monde à une vitesse dingue. Magnifique. Pourtant, Billy Graham dit, à la fin de sa vie, il y en avait à peine 5% de réellement sauvés là-dedans, de convertis. Ça veut dire quoi? C'est que ce sont des personnes qui, émotionnellement, de manière sensible, de manière charnelle, se sont intéressées à Jésus, mais qui n'ont pas reçu en eux une croix, c'est-à-dire reçu ce que Jésus demande, veux-tu mourir à tes péchés? Veux-tu mourir à ta vieille nature? Veux-tu me suivre? Veux-tu que je porte tes péchés sur la croix et que je te donne la puissance de ma résurrection, mon Saint-Esprit? Ça, à ce moment-là, oui, cette personne ne peut pas s'égarer. Si elle répond « oui, Seigneur, j'accepte d'être crucifié en toi, j'accepte que mon péché soit crucifié en toi, j'accepte d'être né de nouveau en toi, d'être une nouvelle créature, j'accepte de renoncer à mes péchés et de vivre comme tu me le demandes dans ta parole. Et j'accepte l'autorité de ton Saint-Esprit. Je donne ma vie, sans regret, sans retour, au Saint-Esprit, à toi Seigneur Jésus. » Eh bien ceux-là, ils sont dans la vraie liberté, mais les autres qui ne l'ont pas fait, Satan va leur proposer des libertés, et ils vont porter le nom chrétien, ils vont peut-être même faire des assemblées, ils vont peut-être même être prédicateurs, et ils vont rester dans les tribulations pour être purifiés. Alors, verset 20, je suis dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, bien sûr, hein, quand on entend l'évangile, on s'emballe et on décide de renoncer au péché, par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Ils sont vaincus. Vous imaginez? Pourtant, ils se sont engagés. Ils sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Et tous les démons sont venus alors là. Hein. Mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, donc de Jésus-Christ, que d'avoir connu et de se détourner du saint commandement qui leur a été donné. Le commandement de Jésus. Viens et suis-moi. Celui qui me donne sa vie la sauvera. Celui qui veut la conserver pour lui-même la perdra. C'est tout clair, son commandement. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, qu'on trouve dans les psaumes. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la trouille lavée s'est vautrée dans le bourbier. Ce proverbe 26, verset 11. Donc, chers amis, nous sommes dans les années 50, quand Pierre écrit cela. Pourquoi? Pour dire que toutes les choses annoncées d'avance par les saints prophètes, par le Seigneur Jésus, sur les derniers temps où il y aura des tribulations, où Jésus va revenir enlever son Église, il faut accepter d'être prêt. Il faut accepter qu'il y aura des épreuves sur le monde, et il faut accepter d'être prêt pour le Seigneur. Et il ne faut pas vivre dans la négligence ou sous l'influence de mauvais prédicateurs qui disent qu'il n'y a pas de retour de Christ, qu'il n'y a pas de crainte à avoir, on peut faire tout ce qu'on veut dans notre liberté, on est quand même baptisé, on est quand même chrétien, on sera quand même sauvé. Dieu est si bon. Mais nous voyons que Dieu a prévu une période de tribulation pour tous ceux qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Et que Satan va leur en faire voir de toutes les couleurs. Nous voyons bien dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 2, verset 9a, que ceci, le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve, les hommes pieux, les femmes aussi. Cela veut dire que pour les tribulations, ceux qui vivent dans la foi et dans l'obéissance à Christ n'y participent pas. Ils sont délivrés de l'épreuve. Nous ne cherchons pas aujourd'hui une apparente paix, une apparente vie chrétienne. Nous cherchons une consécration à Christ pour être de ceux qui seront enlevés. Le jour n'est pas encore là, mais il sera bientôt là. Le jour de qui ? De Christ, qui vient rechercher ses véritables enfants. Les moqueurs disent ceci, au chapitre 3. Où est la promesse de son retour ? Chapitre 3. Où est la promesse de son retour ? Vous savez bien, au verset 4. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 4. Aujourd'hui, où est la promesse de son retour ? Origène, en 180, a dit que les prophéties n'avaient pas de contenu historique, c'est allégorique symbolique. Et toutes les grandes églises protestantes, réformées et catholiques pensent que les prophéties sont simplement symboliques et que le retour de Jésus-Christ, c'est une image. Si ce n'est qu'une image, alors Dieu, c'est un blagueur. Parce que comme le monde est parti là, s'il continue dans son sens, nous allons connaître la puissance de Satan. Et Christ ne nous préservera pas. Alors, si Christ est un blagueur, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, ça ne tient pas debout. Alors, Christ n'est pas fidèle. Christ est impuissant. Donc, la théologie qui supprime le retour de Christ sur l'enlèvement de l'Église et la période de tribulation est une théologie qui fait atteinte à la fidélité de Christ et à la bonne tenue de sa parole. Douteriez-vous de la fidélité de Dieu à l'égard de ses enfants ? Auriez-vous en vous le déni de l'autorité de Jésus-Christ ? Le déni de la prophétie ? Alors, qu'est-ce qui vous reste ? Un petit Jésus de la crèche ? Un petit Jésus impuissant ? Et une grande peur de Satan, qui est en train de prendre du pouvoir énorme sur la terre ? Alors, vous assistez à la grande impuissance de Jésus-Christ ? Vous assistez à la grande désillusion des chrétiens et à leur affaiblissement et à la disparition des églises ? Chers amis, on ne peut pas accepter une théologie où il n'y a pas l'enlèvement d'église, où il n'y a pas cette période de tribulation. Et il n'y a pas la sanction divine à la fin des tribulations. On ne peut pas, parce que nous nions la fidélité, l'amour et la souveraineté de Christ. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Je devrais revenir sur le sujet. 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui, Jésus reviendra, il enlèvera les saints et les saintes. Oui, il préservera son Église, comme il a préservé Lot à Sodome et Gomorre, comme il a préservé Noé dans l'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu démontrera tout ce qu'il a déjà fait à l'époque de Noé, Dieu démontrera tout ce qu'il a fait à l'époque de Lot, de Sodome et Gomorre. Ézéchiel 39, et c'est bientôt. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Dieu regarde d'une manière favorable ceux qui croient dans sa fidélité, dans son autorité sur l'histoire humaine. L'histoire humaine n'est pas aux mains des hommes ni de Satan. Elle est sous le contrôle divin. Dans Hébreux 11, verset 25. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il refuse d'être comme le monde de l'époque. Et vous, chers amis, et moi. Il refuse la corruption et les gloires de ce monde. Comme Jésus a refusé les gloires, les richesses de Satan, quand il lui demandait de se mettre à genoux, Matthieu chapitre 4, sur le dessus du temple de la montagne de Jérusalem. Moïse a refusé. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ, donc le rejet de Dieu, le rejet des prophètes, le rejet de Jésus-Christ, comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Êtes-vous effrayé par les puissants de ce monde? Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Êtes-vous ferme? Voyez-vous celui qui est invisible dans votre vie? C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang. C'est par la foi que je crois dans la Pâque de Christ, sa mort et sa résurrection. C'est par la foi que je crois à l'aspersion du sang de Jésus-Christ sur moi. Je fais partie intégrale du royaume, des prophètes, des prêtres que Christ s'est acquis par son sang. Le croyez-vous, chers amis? Nous reviendrons sur tout ce sujet. C'est capital aujourd'hui d'être au clair dans tout cela. Soyez ferme, ferme dans votre foi, dans le Seigneur. Il est fidèle et bon. Toutes ses promesses sont certaines et véritables.